C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique. Votre émission qui analyse l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous parlons de la rhétorique de la trahison. Avec l'intensification des affrontements dans l'est du pays, les accusations de trahison fusent ça et là. On peut les entendre dans les déclarations politiques, les médias et même les conversations de tous les jours, Babel.
Oui, Pauli, le problème, c'est que le terme traître peut être interprété de différentes manières. Alors, comment analyser cette tendance à désigner des traîtres, notamment en période de crise ou de conflit? Et quelles en sont les conséquences linguistiques, émotionnelles et juridiques? Et surtout, comment le recours à ce mot influence le débat public? Voilà autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de cette émission.
Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Maître Jean-Luc Mburanoumoué, il est avocat spécialiste des questions pénales. Avec lui, nous allons clarifier les aspects juridiques de la notion de trahison qui, en droit congolais, constitue une infraction. Bonjour Jean-Luc Mburanoumoué et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Pauli et merci.
Nous recevons également dans ce studio Josaphat Moussamba. Il est doctorant en sciences politiques et sociales à l'Université des Gants en Belgique. Il prépare une thèse sur la socio-anthropologie des pratiques sécuritaires dans les zones de conflit récurrents dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous disons bonjour à Josaphat Moussamba et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour madame et bonjour à Pauli.
Merci à tous les deux. Alors, avant de commencer notre échange, nous vous proposons d'écouter un premier extrait de notre sketch radiophonique. Cette scène nous plonge au cœur d'une discussion entre des étudiants dans une université. Certains d'entre eux sont accusés de trahison pour s'être désolidarisés d'une initiative lancée par leurs camarades. Suivons.
Je pense que tout le monde est là et on peut commencer. Hein. Alors les amis, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi, je pense que nous pouvons commencer notre session de réflexion sur la mise en place d'une caisse de solidarité.
Non, Kito, attends,
s'il te plaît, que je finisse.
Ah, Kito, Ayindila.
Bon, Ayindila,
tu peux parler.
Ayindila.
Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous venez foutre ici? On ne veut pas des traîtres parmi nous.
Oui. Et toi aussi. Mais il y a que Aman et Mbuta qui viennent d'arriver. Est-ce que...
Oui. C'est juste eux deux dont je parle. Oh, mais ce sont-ils les traîtres?
Mec, là, tu exagères.
Hein. Ah non.
Non, je t'ai dit, exagérer, mon frère. Oh. Comment peux-tu traiter nos camarades étudiants de traîtres? Attends, Yomoko. Ces mots traître est quand même très lourd à prononcer.
Et alors, t'as oublié que ces deux-là n'ont même pas payé les cotisations qui avaient été demandées à chaque étudiant.
Et alors,
C'est la montre qu'ils sont contre notre projet et ils veulent que ça échoue.
Non. Là, tu exagères. T'es au lait ici.
Non, mon œil.
Non, le
mon œil. J'ai parié qu'ils sont venus nous espionner et copier l'idée de ces projets et ramener ça, je sais pas, ailleurs. Méfiez-vous de ces renégats. Méfiez-vous.
Attends. Donc, désormais, tout manquement de la part d'un étudiant, c'est considéré comme une haute trahison.
Kitoko,
c'est ce que tu veux
Kitoko,
dire.
Je te préviens, Kitoko. Si tu veux prendre la défense de ce Judas, toi-même, tu seras considéré comme tel.
Attends, tu nous accuses d'être des Judas? Dis, c'est quoi cette façon de nous marquer du respect?
On est à tout conseil, à tout adab, tout yves, tout nous bourre et tout yves.
Tu le confies? Nous n'avons plus toléré ton langage déshonorant. On te l'a dit. Les gars, vous avez suivi ce qu'il a dit?
Toyo qui était, Toyo qui
était. Il nous appelle des traîtres. C'est pas normal.
Écoutez, vous êtes même pire que des traîtres. Parce que vous avez osé désobéir au président du comité des étudiants en refusant de payer la contribution.
Oh.
Nyan Mouan, vous allez voir.
Nous, on n'a pas refusé de payer la contribution.
Tout tout manquement de la part d'un étudiant sera considéré comme une haute trahison, demande l'un des personnages dans ce sketch. Un exemple qui illustre la manière dont le mot traître peut parfois être utilisé de manière exagérée. Alors ma première question est pour vous, Maître Jean-Luc Mburanoumoué. D'un point de vue juridique, qu'implique l'accusation de trahison ? Est-ce qu'il existe une définition claire de ce terme en droit congolais ?
Effectivement, la trahison, ou une série, c'est une série d'infractions. Les infractions de trahison sont prévues et punies par le code pénal ordinaire, mais aussi le code pénal militaire. Mmh. Alors, au terme des dispositions du code pénal ordinaire, les articles 181 à 184, tous les crimes de trahison sont punis de mort. D'abord, c'est ce qu'il faut retenir comme implication. Mmh. Alors, la réalisation de l'infraction de trahison suppose la réunion des éléments des nationalités, éléments matériels et éléments intellectuels. Pour ce qui est de la nationalité, il faut retenir que c'est un élément indispensable. Mmh. Et le puni, elle est le point de distinction entre la trahison et l'espionnage. Pour la trahison, l'auteur doit être de nationalité congolaise. Mmh. Il n'en est pas le cas pour l'espionnage qui n'est perpétré que par un sujet étranger.
Mais qu'en est-il de la définition même de cette infraction ?
Alors, s'agissant des éléments matériels, il faut retenir que les législateurs prévoient une série d'actes matériels. La trahison est établie si le prévenu a entretenu des relations secrètes avec une puissance étrangère. Mmh. La trahison est une infraction qui peut se réaliser de plusieurs manières. Le fait de porter des armes contre son pays, mmh, par exemple, entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre son pays, livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, magasins, appareils de navigation appartenant au pays, détruire ou détériorer en vue de nuire à la défense nationale un navire, un appareil quelconque, mmh, avant ou après leur achèvement, mmh, provoquer un accident contre son pays en faveur des puissances étrangères. Mmh. Il y a aussi, par exemple, provoquer en temps de guerre des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, de leur faciliter les moyens ou d'en faire des enrôlements pour une puissance en guerre avec le pays. Donc, s'il faut retenir l'infraction de trahison, mmh, signifie être au service des puissances étrangères en défaveur de son propre pays.
Alors, si on revient dans le contexte du conflit qui ravage l'Est de notre pays, de quelle manière est-ce que le terme traître est-il aujourd'hui compris et surtout utilisé dans le débat public ? Est-ce qu'il correspond vraiment à la définition juridique de la trahison ?
Alors, je crois que le premier élément matériel que j'ai cité, le fait de porter les armes contre son pays. Mmh. C'est le terme, généralement, quand on dit actuellement traître, on voit toutes ces personnes qui font partie de la rébellion. Mmh. En résumé, c'est ça un peu quand on qualifie quelqu'un de traître, c'est tous ces gens qui sont au service des groupes armés ou de la rébellion actuellement qui sévit à l'est du pays.
Mais on voit également fleurir, notamment sur les réseaux sociaux, des accusations de trahison, notamment quand on voit certains compatriotes applaudir les rebelles qui ont fait leur entrée à Goma, puis à Bukavu. Est-ce qu'on est également dans le cas de figure de la trahison ?
Non, sur les points juridiques, cela ne relève pas de la trahison. Donc c'est une extension de ces mots. Je crois que ça, c'est les Français tout simplement, des gens qui accueillent, qui applaudissent les rebelles. Mmh. Et dans le jargon, dans les langages courants, des gens des profanes, des droits qui ne connaissent pas les droits, ce sont des traîtres. Mais sur les plans strictement juridiques, cela ne relève pas de la trahison.
Merci Jean-Luc Mburanoumoué pour votre intervention. Je me tourne à présent vers vous, hein, Josaphat Moussamba. Est-ce que vous pensez que la situation de guerre que nous vivons actuellement dans le pays justifie l'adoption d'un langage binaire du type « avec nous » ou « contre nous », un vocabulaire dans lequel ceux qui sont perçus comme « contre nous » sont automatiquement qualifiés de traîtres ?
Alors, merci beaucoup. Sans être en contradiction avec mon collègue ici, je pense plutôt que le code pénal civil, ou alors le code pénal militaire, nécessite vraiment une reconsidération. Il nécessite une actualisation par rapport aux dynamiques conflictuelles des guerres civiles que nous vivons à l'est du Congo. Mmh. Vous voyez que l'élément matériel et intellectuel qu'il présente, là, c'est puissance étrangère. Et c'est quoi une puissance étrangère ? Est-ce qu'on est dans un contexte des conflits armés et qui opposent l'État congolais et un pays étranger, mmh, ou alors on est dans un contexte en fait des bandes armées, parce que c'est aussi une infraction. Et cette question de trahison rentre dans la création des bandes armées, dans le code pénal, je pense, civil et militaire, ou alors la création ou l'association à des mouvements insurrectionnels. Et là, on se retrouve dans les cas de figure de l'Est du Congo, où d'anciens militaires congolais qui désertent les FARDC, ils vont rejoindre, ils vont créer des bandes armées, mouvements insurrectionnels. Et ou alors des communautés pour des besoins de protection dans ce contexte de fragilité de l'État congolais, parce que qu'on voit à la base, ils vont prendre les armes et justifier dans leur pratique sécuritaire discursive avec celle de la communauté, c'est sécurisé parce que, je ne veux pas dire que l'État n'est pas là, mais la provision de la sécurité, la défense, ceux qui sont censés les défendre, peut-être qu'ils sont limités, ne sont pas là. Et alors, c'est de ce point de vue-là que, lorsqu'on parle de groupes de gens qui sont occupés par des groupes armés, soit ils en ont créé, ou alors on les occupe par la violence, qui n'ont pas de choix, et alors à ce moment-là, cette appréciation mérite d'être reconsidérée. Enfin, et je voulais dire à mon confrère ici ce qu'on doit faire attention, parce que rester vraiment la définition juridique sans la mettre dans l'anthropologie juridique ou bien dans la dynamique localement, toutes les personnes qui sont dans les zones contrôlées par les groupes armés, toutes ne supportent pas les groupes armés, mais alors il y en a aussi ceux qui sont dans ce que moi j'appelle dans mes travaux les capitales sociales des rébellions, c'est-à-dire que des gens qui sont dans les liens créés par des leaders de groupes armés ou des communautés qui se créent avant la création de groupes armés, pendant qu'ils contrôlent l'espace et ou aux sorties de groupes armés. Ça, c'est encore très différent des gens qui sont dans leur réseau, qui travaillent pour eux, qui sont dans leur dispositif de renseignement. Et ça, il faut vraiment rentrer à la base. C'est pour ça que pour moi, je pense, le code pénal militaire et même le code pénal civil devra vraiment s'accommoder au contexte des guerres civiles contemporaines que nous sommes en train de voir à l'est du Congo.
Oui. Dans le contexte de la guerre justement que traverse la RDC, on entend traître par-ci, traître par-là. Pourquoi ne pas opter un vocabulaire plus précis, parler de déserteurs pour les militaires qui fuient au front, ou alors de collaborateurs de l'ennemi pour ceux qui soutiennent l'invasion rwandaise sous couvert de la rébellion du M23.
Alors nous, vous savez qu'il y a ce qu'on parle des les langages communs ou les sens communs et les langages savants. Mmh. Et donc nous, peut-être ici à la radio et maître ici, on doit être à mesure, par exemple, dans nos communications, communiquer ces langages qui est connu par les codes et puis qui parlent en fait de la matérialité de l'infraction. Si on reste dans les sens communs, c'est tout le monde qui dit tu deviens traître, sans rentrer dans ce que est-ce que celui-ci il rentre dans ceux qui sont dans les bandes armées, est-ce qu'ils font partie du mouvement insurrectionnel ou alors. Et traître, c'est parce qu'il reste dans un espace, parce qu'il est aussi contraint. Vous savez qu'il y a des gens qui restent dans les zones contrôlées par le gouvernement, mais c'est parce qu'il n'a pas d'alternative. Mmh. Il n'a pas où aller. S'il fuit, il va être déplacé interne. Ou alors, il va rester pour dire « je veux m'accommoder ». Et d'autres, par contre, ils sont là parce que le mouvement vient de la communauté. C'est déjà, si on regarde à la lueur du code pénal militaire, c'est déjà une façon que de créer en fait un groupe armé, un mouvement insurrectionnel dans sa communauté. Mmh. Et c'est aussi très contradictoire lorsque, par exemple, les structures, la justice militaire qui est censée réprimer ces gens-là-bas, lors des guerres civiles, il y a des reconfigurations. Par exemple, ils ont commis cela, mais on vient dans les négociations. On est censé les punir, mais le rapport de force prime autrement, les faits politiques priment par voir si les questions juridiques. C'est pour ça que, est-ce qu'on va les appliquer à la loupe ou comment?
Merci Josapha Moussamba pour ces explications. Je vous propose à présent de passer à un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. Nous retrouvons encore une fois nos amis, les étudiants. On va voir comment ces accusations de trahison commencent à avoir de sérieuses conséquences sur la vie au campus. On écoute.
Accusé Mbouy, arrête Vraiment. Nous avions la volonté de payer la contribution, mais c'est juste qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire, mon
ami. Donc, tu dis que tu vas quoi, Manan, tu vas filer un bout à bout, tu dis pas, boss,
Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire.
Nous voulons
non, mais attends. Nous voulons juste que tu saches que la volonté est là.
Oui,
mais
oui.
Rappelle-toi
que tu as partagé l'idée avec certains étudiants boursiers.
Ça aussi.
Plaît. Voilà pourquoi ils ont payé directement. Facilement même. On n'est pas tous dans la même situation.
Oui, c'est ça.
On n'est pas tous dans la même situation.
Ne te justifie même pas trop. Il faut qu'il arrête de nous étiqueter abusivement comme des traîtres afin de nous écarter du projet.
Oui.
C'est quoi ça?
Arrête de faire ça.
Nous n'avons trahi personne ici.
Vos explications ne tiennent pas la route. Sachez qu'il y a seulement deux camps ici au campus. Celui des loyaux et celui des traîtres. Vous les traîtres, vous n'avez pas de place dans ces projets universitaires.
Attends, s'il vous plaît. Mbouyi, s'il te plaît, pardon, écoute-moi. Mbouyi, vois-tu au moins à quel point ton langage de traître peut être dangereux pour les concernés?
C'est un inconscient. Il ne mesure même pas la gravité de ces mots.
Arrête ça. C'est dangereux ce que tu dis là. Tu entends ça? Non mais oui, tu entends ça? Ils vont les lâcher là. Oui, tu entends ça? Oh mon Dieu, mon Dieu.
Vous les traîtres, vous n'avez pas de place dans ce projet universitaire, martèle l'un des étudiants. Une déclaration qui illustre bien comment ces accusations de trahison peuvent fragiliser la cohésion au sein d'un groupe. Maître Jean-Luc Mbouranoumoué, lorsqu'un individu ou un groupe d'individus est indistinctement qualifié de traître, quelles sont selon vous les conséquences juridiques, sociales et psychologiques?
Alors, j'aimerais quand même, avant d'aborder cette question, revenir sur un élément. L'infraction des trahisons est dans le code pénal situé dans la section de la sûreté extérieure de l'État. Donc, à part le fait qu'il faut qu'elle est imputable aux Congolais qui collaborent avec les puissances extérieures, le simple fait de porter les armes contre son pays, c'est que ce soit un groupe congolais ou des étrangers, ça constitue déjà une trahison. Alors, pour revenir à votre question, madame, les conséquences, c'est que ça peut pousser quelqu'un à la vindicte ou au lynchage, parce que si on vous impute la qualité de traître, tout le monde se croira en légitimité de s'en prendre à vous. Et malheureusement, je n'ai pas parlé de cet élément, l'élément moral, c'est qu'il a été arrêté que l'élément intentionnel de l'infraction de trahison ou de complot est établi dès lors que l'inculpé œuvre contre les intérêts de son pays. Maintenant, qui définit les intérêts du pays? C'est-à-dire chacun peut faire passer ses propres émotions pour intérêt du pays. Et dès que vous porter atteinte à ses émotions, à sa ligne de conduite, il vous qualifie indistinctement de traître. Et la conséquence, c'est que vous pouvez faire la prison, vous pouvez être arrêté, ou vous pouvez être livré en vindicte populaire. Donc c'est vraiment un terme ou une infraction qu'il faut vraiment imputer, qu'il faut éviter d'imputer aux gens en toute légèreté.
Alors ça, c'est au niveau individuel, mais qu'en est-il lorsque ces accusations sont portées plutôt contre un groupe dans son entièreté?
Alors,
et sans nuance.
Alors là encore, c'est un problème très sérieux parce que ça affaiblit la cohésion, l'unité nationale. Parce que quand on impute aux gens originaires d'un coin ou d'une province, d'une région, qu'ils sont en collaboration avec l'ennemi, que ce sont des traîtres, ces gens peuvent se sentir lésés, encore qu'ils sont victimes de cette guerre. Mais vous les imputez ces faits-là de trahison, ils peuvent se sentir détachés ou leur attachement au pays peut être compromis.
Merci Maître Jean-Luc Mbouranoumoué pour ces explications. Je reviens vers vous, Josapha Moussamba. En quoi est-ce que l'usage abusif du terme traître qu'on a défini un peu plus tôt dans l'émission peut-il alimenter des tensions, renforcer la polarisation et même à terme conduire à des violences verbales ou physiques?
Lorsque ça participe dans un premier temps à la catégorisation d'un certain groupe de communauté, un certain groupe de groupe ethnique, ou une société dans ces zones-là, et ça pose énormément de soucis, comme Maître Jean-Claude l'a dit, des soucis au niveau de la cohésion. Ça, c'est un des deux, mais c'est aussi des sentiments de vengeance qui peut revenir sur ces groupes-là qualifiés des traîtres. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que, bien que aujourd'hui ces groupes trouvent qu'une puissance étrangère appuie une autre rébellion pour ses revendications, Ça va déstabiliser encore l'avantage, cet équilibre ethnique qui a existé au sud Kivu et même au nord Kivu, parce qu'on est en train de le voir petit à petit.
Alors, en parallèle aux affrontements qu'on observe sur le champ de bataille, cette guerre des mots, entre guillemets, ne risque-t-elle pas finalement de diviser la population en opposant ceux qui sont perçus comme de bons citoyens, entre guillemets, patriotes, à ceux qui sont étiquetés comme traîtres, entre guillemets?
Oui, bien sûr, ces cas de figure, ils sont aussi observés sur terrain. Par contre, comment on gère ces questions pour une stabilité durable dans les futurs? Et c'est ça ce qui va poser ces soucis, parce que tous les membres de ce groupe étiqueté des traîtres ne sont pas, en fait, dans ces logiques-là. Et tout celui qui véhicule ces discours-là, il pose les jalons d'une déstabilisation à long terme ethnique dans la zone. Je préfère parler de ça, je ne suis pas dans le ethnicisme. C'est pour parler de ces réalités sociales qui existent à la base. Et ça pose des soucis. Et moi, j'ai peur parce que, à long terme, je ne vois pas ces stabilités ethniques qu'on verra à Ituri, au nord Kivu et même au sud Kivu. Ça, vraiment, à long terme, c'est je ne vais pas dire hypothétique, mais j'ai des craintes.
Merci pour ces précisions, Josaphat Moussamba. Passons maintenant à notre troisième et dernier extrait de notre sketch radiophonique. Cette fois-ci, nos amis étudiants, après avoir usé et abusé des accusations de trahison, tentent à présent de désamorcer les tensions. On écoute.
Oh Seigneur, la pauvre Mbuta.
La pauvre. Heureusement, on vient de la cheminer à l'hôpital. Espérons que ça va aller.
En tout cas, espérons.
Que... Mbouyi.
Oui.
Tu vois maintenant où ton langage nous mène. Non,
à part toutes les insultes qu'on a encaissées. Voilà maintenant ça y.
Mon cher.
Bon et ça y. Tu sauras la bénévolation à lumière, mon petit. Mbuta là, la lumière.
Que puis-je dire, hein? Je demande pardon, Fulago roule le sabot.
Pardon à qui? Tu demandes pardon à qui?
Les amis, hein? Je me sentais tellement attaché à ces projets universitaires au point que j'avais tellement peur de voir qu'ils n'aboutissent pas si tout le monde ne contribuait pas.
Non mais, de toutes les façons, tu n'aurais pas dû jouer avec un mot aussi lourd comme traître. Tu ne devrais pas. Soit disant qu'ils n'ont pas donné leur cotisation. Tu savais d'avance qu'ils n'avaient pas eu de bourse. Ça, tu le savais.
Mais toi aussi, tu comprends que je n'étais pas censé traiter des braves, des étudiants qui ne veulent pas se solidariser avec les autres pour ces projets. Hein? Je pensais qu'ils n'avaient l'air de ne pas prendre sérieux les projets.
En tout cas, rien n'est justifié ces langages. Rien. Écoute, à mon avis, un étudiant qui n'est pas en ordre avec la cotisation aurait pu être appelé à un irrégulier, par exemple.
Mais c'est ça, tu
mais
as
pas
raison.
Un traître.
Tu as absolument raison.
Pas un traître, hein? Yaya.
En nous collant les noms traîtres.
Traître.
Ils nous condamnent directement.
Traître, wanana. Ah! Il faut comprendre, Mbouyi. Il faut comprendre que dans ces contextes de tension, nous devons faire attention à certains mots sensibles. Tu sais, hein? Les utiliser abusivement risque d'aggraver la situation. Et voilà, nous on est là, Mbouta là-bas à l'hôpital.
Tu n'aurais pas dû jouer avec un mot aussi lourd comme traître, conclut l'un des étudiants. Alors, Josaphat Moussamba, en période de guerre, pensez-vous qu'il soit possible, disons, de concilier la nécessité de dénoncer certaines actions individuelles ou collectives de certains compatriotes, tout en recourant à un langage factuel et inclusif? Si oui, comment y parvenir?
Alors, c'est assez une entreprise assez complexe. Si c'est des guerres qui oppose notre État avec un autre et où on connaît les lignes de front, c'est possible de savoir qui partage l'information à une puissance étrangère. Mais dans le contexte de ce que moi j'observe à l'est du Congo, il y a plusieurs types de guerres civiles. Plusieurs groupes qui se sont opposés au FRDC avant la résolution du M23 et pour lesquels existaient des opérations militaires contre ce groupe-là, qui étaient des réfractaires. Comme vous le savez, opération Sokola 1, opération Sokola 2. C'était contre tous les groupes armés qui étaient considérés comme des bandes insurrectionnelles. Et alors, comment on sait qui partage l'information avec qui? Et parfois, il y a des services qui abusent avec leur pouvoir. on va arrêter des gens. Il y a peut-être des chefs qui dénoncent. Tel est des mèches avec de groupes ou bien une puissance étrangère. Mais il faut être en mesure d'arriver avec de trouver des évidences. Alors, à temps de guerre, c'est plus ou moins difficile parce que, sauf si quelqu'un est dans les renseignements du groupe armé. Parce que les groupes armés et même les puissances étrangères, ils envoient des personnes infiltrées pour aussi sortir les informations, localiser les positionnements. Par contre, si on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui fait le renseignement pour le groupe armé et qui essaie de les orienter pour venir commettre, comme disait Maître, les infractions, par exemple, de la sûreté étatique intérieure, parce que c'est là que ça rentre. Et donc, les dénoncer, c'est les plus pratiques, mais pour dénoncer quelqu'un, il faut savoir son réseau. Il faut avoir des éléments matériels que lui, il est avec eux. Et ça, ce sont les services qui vont le faire.
Merci, Josaphat Moussamba, pour ces précisions. Pour finir, une dernière question pour vous, Maître Jean-Luc Mbouranoumoué. Lors de l'occupation des villes de Goma et Bukavu par les rebelles du M23, certains internautes ont qualifié les habitants de ces villes de traîtres, reprochant à certains d'avoir accueilli chaleureusement les rebelles. Mais qu'en est-il alors de ceux qui, confrontés à un fait accompli, n'ont pas eu le choix d'être occupés et se retrouvent aujourd'hui, malgré eux, étiquetés comme traîtres? Je sais que vous avez déjà eu un peu à aborder la question. Dites-nous aussi comment éviter de tomber dans ce type de généralisation et quel rôle les acteurs politiques, les médias, les citoyens peuvent jouer pour prévenir de tels discours stigmatisants.
Ok, merci beaucoup. Alors moi, dans ma peau d'avocat, j'ai toujours préconisé d'intérioriser le fait que la responsabilité est individuelle. Donc, s'il faut reprocher à quelqu'un l'acte qu'il a commis, il faut se baser sur la personne qui l'a posé. Alors, nous avons malheureusement un problème. Nous avons tendance à généraliser les faits commis par des individus en les extrapolant sur leur communauté. En fait, le problème aussi, c'est que dans les revendications de certains groupes armés, ils prétendent parler au nom de leur communauté. Alors, les problèmes se posent au niveau de la généralisation quand on impute à tout un peuple ou à une catégorie ou à une communauté qu'il soutient les ennemis. Donc, par exemple, dans la ville de Goma, quand on dit nous avons vu les citoyens soutenir les rebelles, applaudir les rebelles, il faut aussi se mettre dans la peau de ces habitants qui peut-être n'avaient pas de choix. Ils l'ont fait par contrainte, parce que s'ils manifestaient qu'ils étaient mécontents de la présence de ces rebelles-là, c'est leur vie qu'ils mettaient en danger. Alors, je crois que nous devons intérioriser en tant que citoyens le fait que la responsabilité est individuelle. Les acteurs politiques qui sont des leaders d'opinion doivent sensibiliser les citoyens à éviter ce genre de généralisation. Donc toute personne qui incite les autres à tenir des discours contre une partie de la population doit répondre de son acte. Il y a des infractions de tribalisme ou aversion raciale. Donc quand vous incitez des gens à qualifier indistinctement des gens des traîtres, vous devez répondre de votre acte. Donc j'en appelle au sens des responsabilités, pour que les hommes politiques, les médias, les leaders, qu'ils puissent sensibiliser les gens à éviter ces genres de généralisations qui sont dangereuses pour la cohabitation pacifique au sein de notre pays.
Merci Jean-Luc Mbouranoumoué. C'est sur cette note que nous concluons cette émission. Ce que nous retenons au final de cette discussion, c'est que les mots, et en particulier des termes aussi lourds de sens que traîtres, ne sont pas à prendre à la légère. Utilisés de manière abusive, ils peuvent stigmatiser et alimenter des tensions, surtout dans un contexte de guerre, Babel.
Oui, Pauli, l'usage abusif de ce mot peut fracturer les communautés, briser des relations et même conduire à des violences. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence et de responsabilité dans le choix des mots, que ce soit dans les discours politiques, dans les médias ou les conversations quotidiennes.
Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter les mots qui divisent, il faut aussi promouvoir un langage qui rassemble, qui encourage le dialogue et la compréhension mutuelle. Cela passe par une responsabilité des leaders politiques, des médias et des citoyens.
Merci à nos invités, Maître Jean-Luc Mbouranoumoué et Josaphat Moussamba, pour leur disponibilité à prendre part à cet échange et surtout pour la pertinence de leurs interventions. Merci également à Alain Goy qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Pour finir, un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité.
C'est Le Ton qui fait la panique est une émission proposée par l'ONG La Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion sur nos ondes ce samedi à 11h05 18h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiocapi.net et www.abarrièredc.net.
Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Capi et Abar et RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est les tons qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capitaine.